Alors, je vous invite à lire une salutation hein, comme thème de prédication. C'est assez rare hein, de se concentrer sur ce type de passage, mais là, il y a des choses quand même très fortes. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, du verset 1 à 6, ou jusqu'à 7. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multiplié. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet souvent à l'épreuve du feu, aura pour vous résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. On va prier. Merci notre Dieu pour cette puissance que tu nous donnes, comme cela a été dit à la Pentecôte par ton Saint-Esprit. Et nous voyons, Seigneur, qu'à travers cet écrit, ta puissance a agi dans les cœurs et aussi parmi l'apôtre, Seigneur, qui a vécu pas mal de choses avec toi. Et qui a transmis cela aux chrétiens au nord de la Turquie, Seigneur, et qui avait besoin certainement de ces paroles fortes. Seigneur, je veux vraiment te remettre ces moments pour que nous recevions ta parole pleinement, pour qu'elle soit vraiment une source d'encouragement par rapport au temps difficile que nous vivons, Seigneur. Tu es là pour que nous soyons armés, fortifiés et surtout, Seigneur, conforté en toi. Je te demande tout cela dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Pierre est souvent contesté pour être l'auteur d'une si belle lettre. Parce que c'est quand même, quand vous lisez les épîtres de Pierre, c'est quand même un style qui est très, très recherché, hein, proche, je dirais, intellectuellement du niveau de l'apôtre Paul. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas vraiment la vision d'un Pierre comme, de l'apôtre Pierre comme un intellectuel brillant. Ben, il faut savoir que l'apôtre Pierre, ben, ce n'est pas un apôtre brouillon et impulsif. Ben, parce qu'au moment où il écrit, ça fait quand même 30 ans qu'il est dans le ministère. Et il faut pas oublier, il y a beaucoup de choses qui montrent que l'apôtre Pierre a une place quand même très particulière auprès de Dieu et auprès de Jésus. On le voit pendant le ministère, Jésus lui donne les clés du royaume, ce qui veut dire qu'il est le premier à avoir l'autorité pour prêcher l'évangile. Pierre est aussi le premier à exercer la discipline dans l'Église, c'est dans Matthieu 16. Et plus tard, d'autres pourront exercer ce ministère. Mais c'est vrai que l'apôtre Pierre est un apôtre un peu à part. Alors c'est vrai que Pierre, tout en étant un pêcheur de métier, savait lire et étudier. Et ce n'est pas pour rien que Jésus le nomme à la place de chef de l'Église. Et sa proximité avec le Christ lui a donné toute l'intelligence, je dirais, pour faire connaître les profondeurs des mystères de l'Évangile. C'est vrai, comment expliquer, par exemple, sa présence au mont de la Transfiguration? Comment expliquer la phrase « Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église Ça n'est pas rien, toutes ces distinctions que fait l'Écriture. Même après la résurrection, Pierre est chargé de la charge pastorale, dans Jean 21, verset 15. Pierre prêche à la Pentecôte. Pierre reçoit la vision de la tente pleine d'animaux, dans Actes 15. Alors, trop souvent, on reste sur cette image fausse de cet apôtre qui a reçu un ministère apostolique. Alors, il a reçu un ministère apostolique double, hein, c'est celui d'ouvrir l'évangile aux païens, mais ça, c'est surtout l'apôtre Paul qui va construire et finaliser ce ministère, mais aussi pour donner, je dirais, une structure à l'Église universelle en Jésus-Christ. C'est lui qui va commencer à structurer l'Église un petit peu, mais pas au niveau comme l'entend l'Église romaine. Hein. C'est l'Église de Christ qui reste uniquement centrée sur la personne de Christ, tout en respectant son enseignement et les sacrements. Et cette Église, elle est à l'image de ceux à qui Pierre destine cette lettre. Il s'agit de chrétiens juifs et païens, ça se situe, je pense, dans les contrées au nord de la Turquie actuelle, et ils ont une double particularité. Ils sont étrangers et dispersés, nous dit l'Écriture. Dispersés parce qu'il s'agit de juifs convertis qui ont vécu un exil, une diaspora, et des païens parce que Pierre insiste sur le fait qu'ils font partie du peuple de la Nouvelle Alliance. Tout ça, c'est quand même très, très calculé hein, dans les salutations que l'apôtre Pierre fait. Parce que Pierre fait appel au rite de l'Ancienne Alliance, il fait des allusions pour donner un ancrage biblique et, je dirais, de l'Ancien Testament à la nouveauté du message évangélique. Alors, la profondeur de l'amour de Dieu qu'éprouve Pierre pour son Seigneur est d'une force peu commune. Et ça, Jésus le savait. Et je pense que c'est pour ça que, certainement, qu'il a envoyé Pierre en Cappadoce, en Asie mineure, en Bithynie ou en Galatie, même si on ne sait pas précisément tous les trajets qu'a pu faire l'apôtre Pierre. Quoi, hein. Pas aussi précis que pour l'apôtre Paul. Alors, on pense que ces régions-là avaient été aussi visitées par l'apôtre Paul et certaines d'autres ne l'ont pas été. Et comme je vous le disais, on n'a pas de traces précises sur le chemin que l'apôtre Pierre prenait. On sait qu'il est parti d'Antioche et puis ensuite il est passé un peu à travers tout, je dirais, la Turquie. Puis on sait qu'il a fini à Rome dans les années 60 comme martyr, quoi. Et il a exercé quand même son ministère pendant 30 ans. Ça, on a un peu du mal à s'imaginer. On imagine peut-être l'apôtre Pierre comme quelqu'un un peu plus âgé, mais non, il a servi comme apôtre pendant 30 ans. Donc, il a eu le temps de s'enrichir intellectuellement, spirituellement et d'être confronté à pas mal de situations. C'est ce qui donne toute la profondeur et la richesse de ses épîtres. Nous sommes face à un homme qui, par sa qualité de vie spirituelle, a fait preuve de style et aussi d'éloquence. Et quand on devient chrétien, je pense que c'est une chose, hein, c'est qu'on devient plus intelligent. Et oui, ça vous paraît pas évident, mais ça l'est pourtant, plus apte à raisonner, ce qui nous donne des facultés intellectuelles plus fortes que si nous n'avions pas connu le Christ. Bah, parce que déjà, on est obligé de lire, hein, au moins de lire, d'étudier, d'approfondir, et c'est ce que Dieu nous demande quand même dans sa parole. Parce que voilà, ça fait partie de la vie chrétienne. Et c'est pour ces raisons que Pierre a reçu ces révélations divines écrites avec un niveau intellectuel, même s'il a été aidé par son secrétaire Sylvain. Non, c'est pas pour se glorifier. Hein. Pierre n'a jamais cherché qu'une chose, approfondir les enseignements de Dieu. Alors, nous connaissons son goût pour l'aventure. Hein. On sait que l'apôtre Pierre, c'est un impulsif et une expérience. Hein, on en a des traces quand il veut rejoindre Jésus sur l'eau. Et donc, cet homme-là, cet apôtre, a soif de connaissances pour donner de la force à ce type de salutation et à son message. Et moi, je suis stupéfait par la sincérité de sa salutation. Et on va relire un peu le verset 2 où il dit « Qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit ?» afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce charabia entre guillemets théologique? Alors, qui sont élus selon la préscience de Dieu? Point d'interrogation. Ben, tout simplement, ça veut dire que Dieu a déjà choisi ses fidèles et qu'il s'agit là ni d'un choix magique ni arbitraire, mais que cela rentre dans le plan de Dieu. Bon, je ne vais pas plus loin sur cette question. Alors, Dieu les a choisis par la sanctification de l'Esprit. J'ai mis trois points d'interrogation. Ah bon, ça veut dire quoi? Ben, ça fait un peu patois de théologien. Eh bien non. Pierre veut dire que Jésus s'est sacrifié pour le salut, pour leur salut, et que grâce au Saint-Esprit, ces hommes vont aller jusqu'au bout de leur mission. Pour ces chrétiens de ces contrées, là, comme pour nous, aller jusqu'au bout de sa mission, ben, c'est faire preuve de persévérance. Ça rentre un peu dans notre mandat de la sanctification. Mais attention, les choses ne s'arrêtent pas là. En obéissant à la mission qu'il leur est donnée, ils participent aussi, le texte nous le dit, à l'aspersion du sang de Jésus. Alors là, j'ai mis 6 points d'interrogation. Mais qu'est-ce que ça vient faire, l'aspersion du sang de Jésus, en sachant qu'il a tout accompli à la croix? Que veut dire cette phrase? Est-ce que c'est encore un délire de théologien? Eh bien non. Participer à l'aspersion du sang de Jésus, c'est participer à sa souffrance. Et sa souffrance a été marquée par le sang versé. D'ailleurs, le mot aspersion renvoie au geste que Moïse a fait dans l'Ancien Testament, dans Exode 24. Hein, c'est le même geste. Et Pierre veut démontrer par ce parallèle que les païens rentrent dans la nouvelle alliance, qui est une meilleure alliance que l'ancienne. Alors, quand je regarde tout cela, je suis un peu écrasé par la charge que l'on donne aux premiers chrétiens. Je pense que aux premiers chrétiens, les choses ne devaient pas être faciles. Hein. Certainement plus difficiles que maintenant, parce qu'ils inauguraient quelque chose de tout neuf, et puis il fallait aller au charbon, quoi, hein. Et moi, je dois dire que je n'ai jamais expérimenté une telle charge spirituelle dans mes engagements, parce que je n'ai jamais été confronté à la mort dans mon témoignage. C'est peut-être qu'un jour Dieu m'y confrontera, ça on n'en sait rien. Heureusement, bon, Paul lui donne aussi d'autres accès, hein, plus accessibles. Il dit qu'on doit s'engager pour donner à Dieu un culte raisonnable. C'est rassurant. Mais ça n'enlève rien à la possibilité, ni à la profondeur et à la gravité du service pour servir Jésus-Christ. Alors, je poursuis un peu plus loin, au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Béni soit Dieu. Bon, on a vu les risques un petit peu du métier. Maintenant, on va voir un peu les garanties du métier. Quand il dit « Béni soit Dieu », ben, ça n'est pas une parole en l'air. C'est comme un cri de ralliement qui motive chacun de nous. Béni soit Dieu, c'est faire confiance au Dieu Tout-Puissant qui connaît toutes choses. Mais il ne s'agit pas simplement d'un simple vœu, ou divin ou non. C'est quelque chose qui tient au caractère de son Fils qui, lui, Jésus, a été jusqu'au bout. Et qui a donné toute sa vie et qui l'a fait par amour. Et cet amour, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une force spirituelle. Il fait le plein de vie de l'Esprit pour que nous soyons transformés en une nouvelle créature. C'est être régénéré, c'est faire le plein du Saint-Esprit pour qu'on avance. On pourrait se dire que Jésus nous dope avec son Esprit et ses paroles. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il a vaincu le plus grand danger que l'humanité ait connu, il a vaincu la mort. Alors, ce n'est pas si simple que ça, hein. Quand je vous dis qu'il faut faire travailler ses ménages, c'est Dieu qui nous le demande. C'est pour ça que je vous dis qu'on devient plus intelligent quand on est chrétien. Alors Jésus, lui, est ressuscité. Il est ressuscité avec nous pour que la mort du péché ne nous atteint plus. Croyez-moi, quand on commence à rentrer dans ce combat spirituel, on doit se défendre de quoi? Ben, des incrédules, des moqueurs, de ceux qui blasphèment, des menteurs. On a vraiment besoin de sentir, je dirais, la force de cette résurrection. Alors, si je vous parle comme ça, c'est parce que c'est d'un ton un peu combatif, comme si on sentait une oppression. Je me réfère un peu aussi, on est dans un climat un peu particulier, à ce qui se passe un peu en Ukraine, hein, où il y a quand même, on regarde un peu le courage et je dirais la résistance de ces gens. Bon, voilà, je n'irai pas plus loin parce que je ne veux pas faire de politique, mais voilà, ça m'a servi un peu de toile de fond. Je poursuis au verset 4. Pour un héritage, là les choses sont intéressantes, qui peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alors, qui d'entre vous a ressenti cet héritage? Et comment vous avez fait? Est-ce que vous avez essayé de visualiser cet héritage? Ou est-ce que vous avez essayé de vous convaincre sans pouvoir être en contact tactile ou visuel avec cet héritage, hein, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Comment vous voyez cet héritage? Comme un acte de foi, mais sans réelles émotions, sans exaltation, ou simplement par, je dirais, persuasion humaine ou même spirituelle? Ben, c'est quand même quelque chose qui est difficile à dire. Pour ma part, je me dis que je vis sur terre, et aussi beau soit-il, un jour il disparaîtra. Mais Dieu ne permet pas de nous laisser comme ça, sans dans l'inconnu. Je crois souvent que cet héritage, on peut le ressentir dans des moments particuliers, des moments d'exaltation, des moments de louange intense. Je dirais même dans des moments où d'extase spirituelle. Je crois que parfois Dieu me remplit de son Saint-Esprit et me transporte d'émotions quand j'admire un coucher de soleil ou un paysage inédit. Parce qu'il est quand même dit, pour notre héritage, qu'il est parlé d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Voilà, donc c'est quand même, ça nous aide un petit peu à imaginer les choses, à se les représenter. Et cet héritage-là, je le ressens aussi dans mon culte personnel. Il m'arrive parfois d'avoir une grande joie, une paix soudaine, au moment où je lis un passage biblique et où dans un moment de prière, mes paroles ne sont plus mes paroles, mais c'est le Saint-Esprit qui me les donne. Attention, le Saint-Esprit me donne aussi des paroles d'encouragement, mais aussi des paroles de vérité pour m'aider aussi à rester dans les bonnes voies. Alors, je vous avoue que ce type d'expérience n'arrive pas tous les jours, mais ça fait rien. Ça fait partie de la vie, car Dieu m'a définitivement sauvé et qu'il a tout accompli. Et ce n'est pas, si vous voulez, uniquement mes émotions qui garantissent ma relation avec Dieu. C'est surtout ma volonté, mon intelligence et ma foi au service de sa volonté. Surtout que Pierre nous dit que notre héritage est réservé intact. Et pour moi, là, les mots ne sont pas sans importance, hein. Notre héritage, ça n'est pas un portefeuille d'action. Notre héritage est vivant, nous dit l'Écriture, et Dieu en prend soin. Mon héritage n'est pas à la merci de l'obsolescence programmée, il n'est pas à la merci de la corruption possible, il n'est pas victime de souillure, ce qui veut dire qu'il est à l'abri du mal. Ce qui veut dire aussi que ce que Dieu me lègue est toujours préservé et qu'il est préservé et il m'est destiné uniquement à moi, c'est-à-dire à moi et à tous ceux qui lui appartiennent. Alors, qu'est-ce que ça vous fait entendre pour moi de dire que Dieu est une personne et qu'il m'aime personnellement? C'est pour cela qu'il m'a réservé cet héritage. Et c'est ce que veut dire un petit peu ce texte. Alors, moi, des fois, je me dis, j'essaie de me représenter les choses, hein. Vu d'en bas, je me dis, bon, ben, j'ai un héritage. Bon, il y a beaucoup de choses spirituelles, mais je me dis, j'espère peut-être que Dieu m'a réservé une belle bibliothèque et puis une grande armoire avec des outils électriques, électroportés, garantis à vie, hein. Voilà, un peu. Bon, je plaisante, bien sûr, mais c'est comme ça. Bon, l'héritage de céleste, ça sera quelque chose de beaucoup plus profond. C'est surtout une proximité avec Dieu et un projet de vie on n'a pas de mots pour le décrire. Et je continue au verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce dernier verset est d'une très grande gravité car il montre qu'un jour, ce long et douloureux pèlerinage des hommes dans un monde dominé par le mal et la présence de Satan prendra fin. Alors c'est vrai qu'on trouve le temps long, trop long pour moi. Moi, parfois, j'ai du mal à supporter l'absurdité du monde dans lequel on vit. Hein. On vit tellement d'insultes et de blasphèmes par rapport à ce que Dieu voudrait pour l'homme et ce qu'on vit, c'est vrai, pas mal de gâchis. Et tous les efforts que font les hommes pour ridiculiser l'ordre créationnel, ça me rend nerveux et en même temps, je me dis compatissant parce qu'on a du travail à faire pour redonner, je dirais, les vraies valeurs bibliques. Et il faut le faire parce que Dieu nous le demande et il faut être persévérant jusqu'à son retour. Prêt à être révélé dans les derniers temps, nous redit le texte. Alors c'est là où il y a le paradoxe, c'est-à-dire que plus je me rapproche du retour du Christ, plus j'angoisse, car il est dit qu'il y aura beaucoup de bouleversements, qu'il y aura des guerres, des catastrophes. Mais en même temps, Jésus aussi fera de grandes choses, de grands miracles et peut-être des grandes conversions en masse. Et c'est un peu ce mélange de contraires qui éprouve notre foi et qui fait que Dieu nous demande, c'est surtout d'être fidèle et de ne pas céder, je dirais, aux doctrines flatteuses et mensongères, hein, parce qu'il est dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de choses comme ça aussi qui vont se développer. Et ce verset nous dit aussi que nous sommes gardés par la foi pour permettre que le salut soit révélé de maintenant jusqu'à son retour. Donc on a quand même un mandat très précis. Alors c'est vrai que c'est une tension qui est difficile à tenir parce qu'il nous est interdit de se satisfaire et de rester dans un certain confort. Hein. Il nous dit qu'il faut toujours être vigilant, être en veille. C'est ce que dit, ça rejoint un petit peu ce qui est dit dans la parabole des vierges sages. Alors l'apôtre Paul était, je reviens, l'apôtre Pierre, pardon, je reviens sur lui, était un homme d'excès. Mais dans le mot excès, il y a aussi le mot excellence. C'est vrai qu'on garde, on connaît Pierre sous cet angle, on garde le souvenir d'un apôtre impulsif et parfois volontaire et un peu casse-cou. Alors, quel contraste quand on a cette image, qui était peut-être vraie au début, quel contraste avec l'écrivain de l'Épître. Même si l'homme a gardé quelque chose d'intense, il représente le premier chrétien de l'Église primitive sur lequel une bonne partie du christianisme va s'appuyer. Ça, c'est important de savoir. On pense que les choses parmi les premiers chrétiens, les choses allaient un petit peu comme ça au hasard. Non, les choses vont se construire de façon quand même précise. Et donc, je conclurai par le verset 6 et 7 où il est dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Alors, l'apôtre nous fait part des épreuves que nous affronterons, ce qui veut dire que nous ne devons pas les subir, car si c'est le cas, c'est l'incrédulité qui prend le pas. Alors, ça, c'est souvent quelque chose de difficile à faire, hein. Et des fois, je me rends compte que je tombe dans le piège et que des fois, je n'arrête pas de me plaindre et je fais un peu comme les Hébreux dans le désert. Eh bien, croyez-moi que pour vraiment rentrer dans cette dynamique de l'espérance, eh bien, il faut du cran, il faut du courage et ça ne vient pas tout seul. Et pour cela, des fois, on n'y arrive pas tout seul. On a besoin, c'est sûr, du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, mais aussi des frères et sœurs en Christ pour véritablement rentrer dans cette espérance. Et la foi vient secouer l'épreuve pour la rendre moins envahissante. La foi, elle vient préparer le chemin de la sortie tout en nous donnant une espérance vivante, mais vraiment vivante. Juste après, ben, on peut, après avoir passé ce cap, ce passage à vide, elle provoque la louange. Car vous êtes tous arrivés, malgré la fatigue, malgré la lassitude, malgré le travail harassant, Dieu trouvera le chemin de notre cœur pour le remplir de paix et de joie. Attention, là aussi, il faut savoir aussi lâcher prise, hein, et se mettre face à face avec Christ. Des fois, il faut vraiment prendre du temps et de laisser Dieu agir et vraiment lui faire confiance. Et c'est quelque chose que chacun de nous est appelé à faire. Souvent, on reste crispé sur nos petites certitudes et on a du mal à passer je dirais, ce pas de la foi et de dire, écoute, maintenant, Seigneur, vient vraiment me donner cette paix, quoi, hein, cette paix, cette joie, que je puisse vraiment la ressentir. Et c'est quelque chose qui nous est demandé. Pourquoi ? Parce que la louange, c'est aussi une double rencontre. C'est ce que je vous dis, c'est un cœur qui s'ouvre et c'est aussi le Saint-Esprit qui vient dans ce cœur meurtri et qui provoque, je dirais, une sorte de télescopage de joie et de reconnaissance. Par contre, pour le reste du verset, quand il est dit la gloire et l'honneur, ça ne vient pas de nous, mais c'est attribué à Jésus-Christ et ça apparaîtra lorsqu'il reviendra. Alors, je ne vous cache pas que tout ça, c'est un programme, et parce que nos épreuves du moment n'ont rien d'anecdotique. Être attristé pour un peu de temps, ça fait long, parce que Jésus, il n'est pas encore revenu. Mais c'est l'espérance qui enclenche la louange, c'est ce que je vous disais, et qui nous permet de tenir, car elle marque la fin de l'épreuve, où c'est un soulagement sur nos passages à vide. Et c'est quand l'Esprit de Dieu fracasse nos doutes, nos haines et nos questions, et nos révoltes, que la louange, elle, va faire son travail libérateur. Et ça, mes amis, on n'y arrive jamais seul. C'est pour ça que je vous disais, on a besoin des frères et sœurs en Christ pour relayer, je dirais, le Saint-Esprit dans l'épreuve. Et là, il ne faut rien lâcher. C'est ce qui est, à mon avis, la chose la plus difficile. Donc, pour conclure, je dirais, soyons proches et aimants les uns des autres pour nous soutenir dans l'épreuve. Et je pense que notre Église en aura bien besoin, mais elle en est capable. Amen.